franceinter.fr.
Demain matin, nous avons notre première séance des psychanalyses.
Mais ça va pas la tête.
Yeah. Il faut vaincre ta terreur.
Ça demande psychologie, doigté, souplesse.
Réchiche ta pensée.
Je pense que t'es un ouf, toi.
Ah, je suis un zinzin. Je suis un zinzin.
Bonjour à tous, dites un grand oui à la vie avec ce bon vieux Nietzsche, c'est le thème ce matin dans Ça va pas la tête, une émission réalisée par François Audouin, préparée par Agathe Le Taillandier et Lilith Sahakian avec l'aide de Lauren Bess. Je vous propose de nous intéresser à un philosophe qui a exprimé haut et fort son amour de la vie dans ce qu'elle a de plus beau et parfois de plus tragique, une vie prise à bras le corps avec comme moteur la joie, ce sentiment noble et profond qui nous permet de retrouver notre part d'enfance, c'est-à-dire de voir le monde avec un regard neuf. Et puis nous essayerons de décoller quelques clichés de la moustache du philosophe allemand. Vous verrez également que la série américaine Breaking Bad ou le personnage de Don Juan illustrent certains aspects de la philosophie de ce bon vieux Nietzsche.
France Inter, Ali Rebéi.
Un vrai psychopathe celui-là.
Ça va pas la tête.
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
Et comme Édouard Baird dans Astérix Mission Cléopâtre, je vous invite ce matin à dire merci à la vie avec l'auteur du Gai Savoir. Bonjour Sven Ortoli.
Bonjour.
Bonjour Michel Elchtadinov.
Bonjour.
Vous avez coordonné et collaboré au hors-série de Philosophie Magazine consacré à Nietzsche. Le sous-titre de ce numéro, c'est Nietzsche, l'antisystème.
Un commentaire sur l'antisystème.
Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi ?
Parce que Nietzsche a cassé un système qui est celui de la morale, celui des valeurs. Il a fait la généalogie de la morale. Il a remis en cause, en 1870, le bien, le mal, le juste, l'injuste, toutes les valeurs nous en sommes les héritiers aujourd'hui.
On parle même de marteau nietzschéen.
Oui. Oui, c'est un marteau qui vient, comme il dit, saper les fondements de la métaphysique. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, il vit dans un système où la science est toute puissante, où la morale est toute puissante. Vraiment, où tout se construit en système, où on va promettre le bonheur à l'humanité. Et lui, il arrive avec son marteau et il va casser les fondations.
Et ça reste plus que jamais d'actualité, Sven Ortoli.
Ah oui, c'est d'actualité, mais lui-même prophétisait ce que nous sommes devenus. Enfin, prophétiser, c'est toujours facile de dire il est prophète, etc. Mais néanmoins, si vous le lisez, vous verrez que lorsqu'il parle du dernier homme, et j'espère aussi lorsqu'il parle du surhomme, dans un sens qu'on déterminera par la suite, il parle de nous aujourd'hui.
Bonjour Fabrice Midal.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous avez récemment publié « Comment la philosophie peut nous changer ?» 22 méditations décisives, publiées chez Flammarion. Que diriez-vous à quelqu'un qui ne connaîtrait strictement rien à la philosophie de Nietzsche ou qui serait bourré d'a priori sur le philosophe allemand, né en 1844 et mort en 1900, l'auteur de Par-delà le bien et le mal, Humain trop humain ou encore Ainsi parlait Zarathoustra.
Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qu'il pourrait lire, qui lui parleraient aussi clairement de sa propre vie, de sa propre souffrance, de ce qui fait problème dans notre temps. Et le côté vraiment unique et génial de Nietzsche, c'est à la fois d'être le médecin de la crise de notre monde et sa vision n'a rien perdu de sa vivacité aujourd'hui. Et lire Nietzsche, c'est qu'un jeune disait, mais pourquoi je devrais lire Nietzsche? Ben, parce qu'il pourra découvrir vraiment ce qui emprisonne la vie partout aujourd'hui. Vous avez parlé beaucoup dans votre introduction de la joie, et Nietzsche dit oui à la vie et permet la joie parce qu'il voit ce qui l'empêche partout. Et il a une sorte de radar absolument incroyable pour voir là où nous sommes emprisonnés. Et son marteau, c'est un marteau extrêmement, c'est pas un marteau où on casse tout, c'est on voit là où ça sonne faux et là où il faut, où ça sonne creux et où il faut, et où donc un petit coup va faire effondrer ce qui est faux. Et qu'est-ce qui est faux dans notre monde? Qu'est-ce qui empêche la vie? Et à partir de là, il nous donne une incroyable impulsion pour trouver une manière de vivre plus réelle, plus authentique. Et donc, il nous donne à la fois une vision du monde et des outils pour réussir à peut-être retrouver le sens de ce qu'il appelle la grande santé.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour.
Professeur de philosophie, auteur de philosophie en série chez Ellipse. Même question, comment présenter Nietzsche à un élève de terminale qui débuterait la philo? C'est la minute cahier de vacances.
Ouais, c'est ça, et puis c'est mon travail, et c'est ce que je vais faire encore en septembre. En fait, c'est ce qu'il y a de bien avec Nietzsche, c'est que justement c'est un philosophe qui a une étiquette, qui a une image, qui a une réputation qui le précède. Et quand on commence, pour la première fois que je parle de Nietzsche aux élèves, je sens une sorte de frémissement, il y a un petit frémissement parce que Nietzsche, il a un petit côté punk, un petit côté anard pour des élèves de 17-18 ans, alors qu'ils ne l'ont pas lu. Mais donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir cette réputation qui le précède. Après, bah, moi, je reprends les choses de façon très scolaire, mais en fait, je leur dis, voilà, vous allez avoir un philosophe qui va renverser, c'est un concept nietzschéen d'ailleurs, mais qui va renverser le monde dans lequel vous avez été éduqué, le monde dans lequel vous avez grandi avec des valeurs comme « dis bonjour à la dame »,« sois poli »,« sois gentil »,« sois généreux », etc. Il va renverser. Et moi, je mets vraiment en scène ce renversement. Et c'est une très bonne manière, à mon avis, de commencer avec la philosophie de Nietzsche.
Et vous nous parlerez donc tout à l'heure de deux héros de fiction nietzschéens, selon vous. Le héros de Breaking Bad.
Walter White dans Breaking Bad. Et puis, peut-être un peu plus surprenant et peut-être un peu plus sujet à débat, Don Juan aussi.
Réagissez, intervenez sur franceinter.fr, à la page Ça va pas la tête, ou sur Twitter, hashtag Ça va pas la tête. Speaking Martian style, speaking Martians can't. They just haul around like the fudges on a cross. Le groupe parisien We Are Match sur France Inter.
Mais ça va pas la tête.
France Inter, Ali Rebi.
Mais il est complètement fou ce mec.
Ça va pas la tête.
9h20, dites un grand oui à la vie avec ce bon vieux Nietzsche. C'est le menu ce matin en partenariat avec Philosophie Magazine, avec son rédacteur en chef Sven Ortoli, avec Michel Etchazninoff et les philosophes Fabrice Midal et Thibaut de Saint-Maurice.
Eh bien Ken, je vais te poser quelques questions, tout en mangeant mes frites. D'abord, quel est le philosophe qui a développé le concept du surhomme dans Also Sprach Zarathustra? Non? Eh bien, je te mets une frite, non, n'y vaut la peine. Oh. Friedrich Nietzsche. Ensuite, Comment s'appelle le livre où Nietzsche a affirmé que la plupart de nos soi-disant cultures sont basées sur la cruauté? Tu réfléchis là ou t'es déjà en train de bégayer?
T'es un malade.
Oh, par-delà le bien et le mal. Je vais te poser une question moins difficile. Attends. Ah, j'ai trouvé. Où sont cachés les diamants?
Un extrait d'Un poisson nommé Vanda de Charles Crashton sur un scénario de John Cleese en 1988. Sven Ortoli, le personnage de Kevin Kline, aurait eu bien besoin de se plonger dans leur série de Philomag. Quel est le cliché qui vous agace le plus concernant Nietzsche?
Tous ceux qui étaient les miens avant que je fasse ce numéro, mais en gros, peut-être l'idée d'abord du nihilisme, c'est-à-dire qu'on lui attribue à lui, qu'on le traite lui de nihiliste, c'est-à-dire qu'on considère qu'on change, qu'on inverse la situation. Il y a quelques années, j'avais remarqué chez des vendeurs de t-shirts américains, une espèce de classique où il y a marqué Nietzsche est mort, Dieu est mort, signé Nietzsche, et en dessous, Nietzsche est mort, signé Dieu. Et je trouve que c'est une blague classique. Chez les évangélistes déjà un petit peu cultivés, mais qui représente bien ce retournement et qui montre d'ailleurs au passage que l'un des dangers dans la lecture de Nietzsche, c'est de prendre une citation à gauche, une citation à droite et de ne pas regarder l'ensemble.
Michel Elchaninov.
Il y a un autre cliché qui a la vie dure, c'est Nietzsche nazi. C'est-à-dire comme un peu dans Un poisson nommé Vanda, c'est le Nietzsche un peu sadique, un peu périssent les faibles et les ratés, c'est une citation de Nietzsche, et on va en rajouter. Alors ça c'est compliqué, parce que c'est vrai que Nietzsche a été récupéré par les fascistes et par les nazis, mais Nietzsche, disons, a résisté à cette tentation de plusieurs manières. D'abord, il se moquait tout le temps des Allemands. Il préférait l'Italie et il préférait à la fin de sa vie Carmen de Bizet aux opéras de Wagner. Et surtout Nietzsche, s'il pouvait critiquer le judaïsme, comme il critiquait aussi le christianisme en tant que religion, n'était pas antisémite. Et Nietzsche d'ailleurs détestait les antisémites. Sa sœur Elisabeth à un moment s'est mariée avec un homme politique antisémite. Il a réagi de manière extrêmement violente. Il a dit à sa sœur « tu fais n'importe quoi, je refuse de voir ce type », etc. Donc Nietzsche n'est pas un nazi. Nietzsche est quelqu'un qui vient bouleverser un peu au milieu du 19e le côté un peu humanitaire, douceâtre, progressiste de la vision du monde dans laquelle on veut enfermer ses contemporains. Mais à mon avis, il est vraiment difficile d'en faire la bête blonde que Hitler a voulu en faire plus tard.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, moi, ce qui m'agace, c'est quand on prend prétexte de la folie, de la maladie dans laquelle Nietzsche a été plongé à la fin de sa vie, pour en un sens disqualifier sa philosophie. On dit voilà, en fait c'est la philosophie d'un fou, parce qu'effectivement Nietzsche a passé la fin de sa vie dans un asile, enfin dans un ce qui s'appelait pas encore un hôpital psychiatrique, mais il était malade. Mais ça n'a rien à voir avec son œuvre philosophique. C'est pas parce que Nietzsche était fou, en tout cas, enfin voilà, malade, qu'il a développé cette philosophie-là. Il y a pas de lien. Et ce côté-là m'agace profondément.
Fabrice Midal.
Je pense que c'est l'idée de la mort de Dieu qui est si mal comprise. Nietzsche ne dit pas que Dieu est mort comme une opinion qu'il aurait, mais réussit à voir comment quelque chose bascule. Dieu est mort au sens où il n'est plus le garant de l'entièreté de la réalité. Dieu n'est plus... la consistance à partir duquel tout est là. Alors on lui opposerait aujourd'hui, mais il y a plein de gens qui sont croyants, mais ça ne change rien. Dieu est mort comme solidité sociale à partir duquel tout a lieu. Et on pourrait dire que même aujourd'hui, les fanatiques sont une confirmation du fait que Dieu est mort comme source de vie, comme source d'avenir. Et donc là, il y a quelque chose de très central qui est, à mon avis, souvent trop mal compris.
Thibaut de Saint-Maurice, qui est ce célèbre surhomme de Nietzsche, qui n'a rien à voir avec Superman ou avec le nazisme? Comme le rappelle le philosophe Michel Onfray, le surhomme vénère la vie, l'amour, la joie, le rire, la danse, la sexualité, la jubilation, le vin, mais aussi la cruauté, la sauvagerie de la vie.
Oui, en fait, le surhomme, on peut commencer par dire, moi c'est ce que j'explique aux élèves, c'est tout ce que vous n'êtes pas. C'est tout ce que vous n'êtes pas a priori. C'est tout ce que vous n'êtes pas parce que c'est tout ce que vous n'êtes pas parce que vous n'avez pas été éduqué, construit, etc. comme ça. Donc le surhomme, c'est d'abord une sorte de miroir inversé et extrêmement démultipliant
de tout ce que l'on pourrait être. Il y a un truc tout simple qu'il faut rappeler, il y a un truc que Nietzsche déteste par-dessus tout, c'est l'identité. C'est l'identité, et notamment toute cette métaphysique de l'identité, je suis, je pense donc je suis à une substance pensante, je suis quelque chose qui demeure fixe dans le temps. Et donc la première chose qu'on peut dire, c'est que le surhomme, c'est celui qui va faire voler en éclats cette métaphysique de l'identité, et qui va du coup assumer une sorte de, alors l'expression est un peu compliquée, on dit de pluralité intrasubjective, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il y a en nous plusieurs personnage, hein, et le surhomme, c'est celui qui va les assumer en même temps. Et alors, c'est quoi le lien avec la vie? C'est que c'est la vie qui se charge de tirer de nous et en nous tous ces personnages.
Mais Michel Eltchaninov.
Oui, en fait, le surhomme, c'est aussi c'est pour Nietzsche une tentative pour dépasser ce qui alourdit notre humanité et qu'il appelle dans la généalogie de la morale le ressentiment. C'est-à-dire que bien souvent, nous agissons, nous nous donnons des règles pour nous approuver en tant qu'êtres moraux, être parfaits. Alors aujourd'hui, ça voudrait dire trier ses déchets, ressembler au magazine de mode, enfin, c'est-à-dire être quelqu'un de bien, de parfait, ce qu'on appelle aujourd'hui monsieur ou madame parfait. Nietzsche dit que derrière ce moralisme, cette moralité qui existe de tout temps et qui existe, je pense, encore plus aujourd'hui qu'elle se dissimule un peu, il peut y avoir quelque chose qui va contre la vie et qu'il appelle le ressentiment. C'est-à-dire qu'on peut être vertueux par haine de la vie. On peut être vertueux par vengeance vis-à-vis des autres. On peut être vertueux par désir de domination, ce qui n'a évidemment rien à voir avec le surhomme. Et donc Nietzsche nous explique que aller vers le surhomme, c'est essayer de dépasser cette humanité dans laquelle on est engoncé dans ce qu'il y a de pire dans la morale, qui n'est pas le fait de faire le bien, qui est en fait de vouloir le mal en faisant le bien, et donc d'être profondément un être de ressentiment.
Fabrice Midal, la base de la philosophie de Nietzsche, c'est donc sa foi dans la vie. C'est l'un des philosophes qui exprime le plus fort son amour de la vie, un peu comme Édouard Baer tout à l'heure dans l'extrait d'Astérix, Mission Cléopâtre. Le thème central de la philo de Nietzsche, c'est la joie de vivre, l'allégresse, le plaisir d'exister.
Alors d'abord, il y a la notion de vie qui est très étonnante en philosophie. Il y avait la notion de bien qui était au cœur de la philosophie, la recherche du bien, la recherche de la vérité. Et comme il a été dit, Nietzsche se rend compte que derrière ces grands idéaux, quelque chose est manquant, c'est laisser la vie venir dans sa démesure. Et ce que voit Nietzsche de manière absolument centrale, c'est on a rapport à la vie que si on est prêt à risquer de vivre, à risquer quelque chose. Et donc la figure de l'héroïsme devient vraiment centrale. Il y a une manière où il faut vivre intensément pour vivre vraiment. Et donc ce qu'il va dénoncer, c'est toute la manière qu'on a de vivre de manière conformiste. Et on voit bien aujourd'hui que l'ultra-management qui est en train de détruire tout, au fond, tue la vie. Et que ceux qui ont l'air d'être pleins d'activité sont au fond en train de tout contrôler et ne risquent rien. Et donc ne sont pas dans ce oui à la vie et cette joie qui est complètement, qui doit avoir une innocence. Et vous aviez bien souligné dans votre introduction qu'il y a une innocence de la joie qui est absolument centrale.
Si je vous comprends bien, il faut prendre la vie à bras le corps, même dans ce cas-là de pire.
Même dans ce cas-là de pire et dans le risque de tout perdre, dans le risque de risquer, parce que Nietzsche, en plus, Nietzsche est une figure centrale dans le fait qu'il vit sa philosophie. C'est très important. Et lui-même a une vie très difficile. Et il raconte à quel point il a souffert, il a été malade, mais ça n'empêche pas d'être en rapport à la santé. La joie n'est pas que tout va bien, c'est un certain rapport d'intensité à l'existence qui lui permet de dire oui malgré les difficultés. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut nous vendre, cette soupe où tout va aller bien si vous prenez je ne sais quel... C'est vraiment un engagement extrêmement profond. Et donc c'est une joie qui n'empêche pas le tragique, une certaine forme de tristesse, mais d'ouverture complètement qui nous métamorphose.
Sven Ortoli.
Oui, en fait, j'ajoute simplement ce que vient très bien de dire Fabrice Midal, c'est que c'est l'amorphatie, ce qu'il appelle l'amorphatie chez Nietzsche, c'est il aime tout ce qui arrive, et quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que la tristesse fait intégralement partie de la joie, que la douleur fait partie de la vie, et on viendra, j'imagine, sur la notion de grande santé qui est au cœur de sa pensée.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, il faut dire aussi, en fait, parce que c'est le thème de l'émission, dites oui à la vie, mais c'est quoi la vie, en fait? C'est cette vie dont on parle. Est-ce que Nietzsche, c'est une sorte de biologiste qui dirait, en fait, qu'il faut être attentif à tous ses organes, à la fatigue de son corps, à ses pulsions, etc. Voilà.
Est-ce que c'est ça? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi, voilà, quand on lit Nietzsche et quand on essaye de le comprendre, aussi se demander ce que c'est que cette vie à laquelle il faut dire oui. Alors, effectivement, ça va être un ensemble de pulsations, un ensemble de mouvements, un ensemble d'émotions, de plaisirs, de souffrances aussi. Il y a ce qui vient. En fait, c'est comme une sorte de millefeuille. Il y a plusieurs couches, plusieurs perspectives de vie.
Et puis, voilà. Il y a la joie. Nietzsche nous rappelle que la joie est plus profonde que la tristesse, vous le disiez, Fabrice Midal. Mmh. On oublie souvent que Nietzsche est un optimisme sans bornes. Peut-être pas comme Jean d'Ormesson, mais presque. Mais disons que, par exemple, le philosophe Clément Rosset nous rappelle que la joie est le sentiment le plus profond, le plus noble.
Oui, alors
on l'oublie trop souvent quand on pense à Nietzsche.
C'est ça, et encore une fois, c'est discuter de ça, mais c'est pas une joie béate, hein. C'est pas une sorte de sourire de sourire béat.
C'est la possibilité vraiment d'affirmer ce qui est, de pouvoir aller avec ce qui est. Je crois que vous avez raison. C'est une joie, pas comme ce qu'on pourrait mal comprendre comme une sorte d'émotion étroite, mais comme quelque chose qui nous traverse complètement et qui nous permet de pouvoir danser avec la vie.
Michel Elchaninoff.
Oui, tout à l'heure, je passais dans les transports en commun, je voyais une publicité « Vivre l'ivresse de la vie ». Ça, c'est du crypto-nietzschéisme. C'est du nietzschéisme artificiel. Parce qu'effectivement, la vie, c'est pas ça, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la vie, ça intègre la souffrance. Et comme l'a dit Sven Ortoli, « amor fati », c'est ce terme latin qui veut dire amour de ton destin, aime ce qui t'arrive. Ça veut dire que malgré la souffrance, malgré la maladie, et il faut au contraire accepter cette souffrance et cette maladie et affirmer la vie en affirmant cette souffrance et cette maladie. Donc il ne s'agit pas seulement de surfer sur la vague publicitaire de l'amour de la vie, telle que, qu'aujourd'hui elle explose sur nos affiches, mais aller jusqu'à accepter la difficulté et dans cet acte héroïque que Nietzsche a toujours voulu incarner, eh bien être celui qui malgré tout et à cause de cela affirme la vie et est joyeux dans la souffrance.
Sven Ortoli, en deux mots, c'est quoi la grande santé ? Vous consacrez un large chapitre de votre hors-série à la grande santé.
C'est au centre de la pensée de Nietzsche. C'est cette idée que vous devez intégrer dans votre manière d'accepter la vie, enfin ce dont parlait à l'instant Michel, que tous les événements, dont la souffrance, et Nietzsche, est-ce que vous rappeliez tout à l'heure, Thibault, Nietzsche a vécu dans des conditions vraiment incroyablement difficiles. Enfin, quand on examine sa vie, sa biographie est terrible. Je reste absolument pantois devant l'énorme douleur qui était la sienne et qui fait que malgré tout il a pu déclarer qu'il fallait aller vers la grande santé, donc cette acceptation de la souffrance au cœur de la vie.
Juste la grande santé, c'est pas la santé ordinaire. Quelqu'un qui est malade peut connaître la grande santé, quelqu'un qui a des difficultés peut connaître cette grande santé, et c'est un changement très très profond qu'on pourrait tous méditer dans le rapport qu'on a à ceux qui souffrent.
Allez, réagissez, intervenez sur franceinter.fr à la page Ça va pas la tête ou sur Twitter, hashtag Ça va pas la tête. Téléphone, ça c'est vraiment toi, un écho lointain au célèbre Deviens ce que tu es de Nietzsche.
Maman, j'aime pas les épinards.
Mais enfin, mon chéri, ce ne sont pas des épinards comme les autres. Ce sont des épinards en conserve de la marque Nietzsche. Ça va t'aider à devenir ce que tu es. Les épinards en conserve de la marque Nietzsche sont riches en vitamines, fer et sels minéraux, idéales pour la croissance de votre enfant. Avec les épinards en conserve de la marque Nietzsche, votre enfant ne devient pas un homme, il devient un surhomme.
Oui, mais c'est quand même dégueulasse.
Ça va pas la tête ?
Pastille signée, François Audouin. Dites un grand oui à la vie avec ce bon vieux Nietzsche. C'est le menu ce matin en partenariat avec Philosophie Magazine, avec son rédacteur en chef Sven Hortoli, avec Michel Etchaninoff, Fabrice Midal et Thibaut de Saint-Maurice.
Enfin, c'est ça qui est génial chez Nietzsche. Enfin, il y a deux, trois choses absolument géniales. C'est d'abord qu'il a photographié le ressentiment. Il a compris quand Socrate demande le coq qui doit le coq à Esculape, c'est qu'au lieu de mourir dans l'illumination de l'instant, dans l'immanence, il pense, il a un remords, il a une dette. Donc il n'est pas présent. Donc la thèse de Nietzsche, qui est totalement à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions, c'est qu'il capte partout que les hommes se vengent de vivre. Ça, c'est absolument génial. Il est le grand philosophe d'avoir capté que les gens souffrent de la vie. Et comme ils souffrent de la vie, ils ont inventé la transcendance.
Fabrice Lucchini dans la grande librairie de François Bunel sur France 5 en 2009. Qui veut réagir autour de la table ? Thibaut de Saint-Maurice ?
Oui, ça pourrait paraître contradictoire avec ce qu'on vient de dire, parce que Fabrice Lucchini dit Nietzsche a compris que les hommes souffraient de la vie. Souvent, d'ailleurs, c'est marrant, parce que quand on lit les livres, enfin le texte même de Nietzsche, il y a beaucoup d'italique dans le texte. Et moi, je me souviens d'un prof à la fac qui nous avait dit « Vous pouvez comprendre Nietzsche quand vous comprenez les italiques et les guillemets. » Parce que, par exemple, quand on dit « il souffre de la vie », bah, je pense que, en fait, là, à ce moment-là, Nietzsche mettrait « la vie » entre guillemets. Mmh. Parce que, en fait, c'est cette vie, c'est la vie qu'on nous impose, dont on souffre. C'est cette vie-là, c'est cette vie qui est figée par des valeurs. Mais la vie qu'on va accueillir et qu'on va affirmer, même si elle contient sa part de souffrance, elle va nous rendre joyeux, comme on l'a dit tout à l'heure.
Michel Etchaninoff.
Oui, Nietzsche adorait un romancier qu'il a découvert à la fin de sa vie, qui est le romancier russe Dostoïevski. Et il a trouvé chez lui un concept très important qui éclaire parfaitement ce que vous venez de dire, qui est chez Dostoïevski l'idée de vie vivante. C'est-à-dire que la vie, oui, d'accord, la vie, mais on peut la voir comme la biologie, comme juste le fait d'exister, comme le fait de vivre des règles de morale. Mais Dostoïevski, suivi à mon avis en cela par Nietzsche, ajoute vivante. Il y a une vie morte. Il y a une vie morte, on le voit aujourd'hui partout. On est dans une idéologie de la vie aujourd'hui. Il faut vivre, il faut avancer, il faut être vainqueur. Mais c'est une vie figée, c'est une vie morte. Ce que Nietzsche ajoute avec Dostoïevski, c'est l'idée qu'il faut essayer de rendre la vie vivante. C'est-à-dire effectivement aller dans ce qui fait votre impulsion de votre vie morale, ce qui fait que vous cherchez ou non la vérité, ce qui fait que vous vivez ainsi ou pas ainsi avec les autres, pour voir si justement cette vie, elle est vivante ou elle est morte.
Fabrice Midal, dans votre ouvrage « Comment la philosophie peut nous sauver », vous nous rappelez que Nietzsche peut nous aider à retrouver le désir de vivre.
Et le titre lui-même est très nietzschien, c'est l'idée que la philosophie n'est pas là juste pour apprendre des connaissances, pour essayer de briller, mais qu'elle a un rôle absolument crucial. Elle est là pour nous sauver, sauver non pas dans un sens religieux, mais nous rendre saufs, comme dans l'expression « sains et saufs », qui nous rend à notre entièreté. Et rendre à notre entièreté, c'est pouvoir redésirer, et on pourrait dire aujourd'hui on vit dans un monde où la question, où cette question-là est phagocytée, et c'est un peu singulier parce que Nietzsche est à la fois le penseur du désir et de la vie. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, ces notions sont beaucoup plus connues et rentrent dans le langage commun. On parle de la vie et du désir, etc. Et en même temps, sans rien avoir entendu à ce que dit Nietzsche. Donc Nietzsche a une actualité un peu différente de celle qu'il avait en son temps. C'est plutôt la découverte de la vie, mais comme il a été dit, de cette vie qu'on peut faire éclore, qui peut devenir source de métamorphose. Et évidemment, comme dans mon livre, je m'interroge beaucoup sur la dépression, le burn-out, toutes ces maladies de notre temps, qui sont bien des visages du nihilisme que décrit Nietzsche. Et qu'est-ce que ça veut dire, cet élan de vie aujourd'hui, comment il peut nous aider, comment Nietzsche peut nous aider à retrouver cette manière d'être en rapport à une source de vie.
Vous écrivez que nous vivons aujourd'hui dans une volonté terne, sans éclat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est-à-dire une volonté qui ne veut rien. C'est-à-dire on voit aujourd'hui le modèle, c'est un peu l'homme qui s'active toute la journée, mais qu'est-ce qu'il veut pour de bon ? La volonté, disons, la volonté de puissance, qui est une grande notion de Nietzsche, c'est C'est une volonté qui veut quelque chose qui fait croître, qui a une lumière, qui a quelque chose de joyeux. Or aujourd'hui, on est obnubilé par une action, par l'action, il faut agir tout le temps, mais qu'est-ce que ça crée de bon? Qu'est-ce que nous voulons? Et chacun pourrait se poser cette question à un moment, mais qu'est-ce que je veux au fond de vrai?
Thibaut de Saint-Maurice.
Ouais, moi, je vais encore vous donner un petit truc de prof pour comprendre ce que c'est que la volonté de puissance. Alors, ça va être un peu raccourci, mais...
C'est la minute cahier de vacances.
Voilà, encore une fois, la minute cahier de vacances. La volonté de puissance, c'est quoi? Eh ben, c'est la puissance de la volonté. C'est-à-dire, on peut, voilà, ça peut fonctionner comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la volonté de puissance, c'est pas la volonté de dominer, c'est pas la volonté d'être le plus puissant, mais c'est la volonté de retrouver et de redonner de la puissance à sa volonté, pour en fait vouloir vraiment. Voilà, alors, retourne l'expression.
Deux questions sur Twitter et sur franceinter.fr. Pourquoi, autour de la table, occultez-vous la haine des femmes qui traversent l'œuvre de Nietzsche? Sven Ortoli.
Bah, c'est pas occulté, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps encore d'en parler, parce que le thème, c'est tout de même...
La joie.
C'est la vie, et ça... Et évidemment, Nietzsche n'est pas exempt de sottise. Dès qu'il parle des femmes, c'est vrai que c'est absolument, enfin, absolument consternant. Moi, je me souviens d'une phrase qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais relativement adolescent et que je tentais de me balader avec un cipresa soustra à la main, en pensant que ça me permettrait de faire des rencontres. Ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs. Enfin, je dis, ça marche peut-être pour d'autres, mais pour moi, ça n'a pas marché. Quand tu vas chez les femmes, n'oublie pas le fouet. Alors ça. Ça me paraissait prodigieusement révolutionnaire. Mais Nietzsche, là-dessus, Nietzsche, il faut aussi le lire avec des yeux critiques. C'est-à-dire, il invite lui-même à une lecture critique.
En même temps, faut quand même pas. Nietzsche est très subtil. Il y a aussi des choses magnifiques sur les femmes qu'ont une oreille beaucoup plus fine, qu'ont une capacité d'entendre autre. Et il y a chez Nietzsche, ce qui est un peu, comme c'est une écriture fragmentaire, c'est une écriture qui n'est pas, il fait pas système. Donc je crois qu'on comprend Nietzsche et on comprend que c'est un homme qui est blessé par la fatigue de l'Occident et qui travaille comme il peut par rapport à ça. Donc, c'est pas, est-ce qu'il a raison sur tout, est-ce que c'est une nouvelle doctrine, mais en quoi, par cette bataille qu'il a sur tout, c'est un des penseurs les plus émouvants. Et je crois que si on voit ça, alors, on les lit autrement, ces phrases qui pourraient nous gêner et où il dit des... Voilà.
Thibaut de Saint-Maurice, The Good Wife, c'est l'une des meilleures séries grand public américaines, créée en 2009 par Robert et Michelle King. Alors, Alicia Florrick, l'héroïne, est pour vous une héroïne nietzschéenne. Alicia Florrick, c'est cette femme bafouée par son mari de procureur à Chicago. C'est une mère de famille qui redevient avocate dans un grand cabinet de la ville. Et pour vous, Alicia Florrick redécouvre en elle une puissance nietzschéenne.
Oui, alors c'est toujours compliqué de dire qu'un personnage est nietzschéen, parce qu'il y a toujours...
C'est votre interprétation, mais bon.
Voilà, 15 débats possibles. Mais moi, il y a deux choses qui m'intéressent beaucoup dans Alicia Florrick et qui, à mon avis, incarnent quelque chose de cette puissance-là. La première, c'est que au moment où elle pourrait justement se replier sur son statut de femme bafouée, de femme humiliée, etc., et donc au moment où elle pourrait se complaire dans une forme de faiblesse, dans laquelle elle pourrait retrouver même une forme de dignité vaguement qui est de victime, etc., chercher la solidarité des femmes, etc., au contraire, elle se relève et elle redécouvre en elle justement la puissance de la volonté. Vouloir autre chose pour sa vie, reprendre le travail, reprendre en main sa vie amoureuse, etc. Donc ça, c'est à mon avis une première chose. Et la deuxième chose, c'est que voilà un personnage qui contient plusieurs personnages. Dans 40 minutes d'épisode, vous avez Alicia avocate, Alicia amante, Alicia mère de famille, Alicia épouse, et puis Alicia, encore Alicia. Plein de choses, Alicia, voilà, surprenante dans ses échanges avec ses collègues, etc. Et voilà une sorte de fictionnalisation de ce que peut être une forme de surhumanité, c'est-à-dire la capacité à jouer tous ses rôles en même temps, et à y trouver une forme de liberté.
The Good Wife à voir ou à découvrir en DVD et Blu-ray. Et je rappelle que je suis l'unique membre et fondateur du fan club de Juliana Margulis qui interprète le rôle d'Alicia Florrick.
Moi, je veux bien adhérer.
D'accord, merci. Fabrice Midal, l'une des grandes sources de la joie chez Nietzsche, c'est la musique. La musique qui nous procure de la jubilation, même quand il s'agit d'une musique aux accents nostalgiques. Ce qui est là, on entend l'hymne à la joie, hein, dirigé par le grand Seiji Ozawa.
Ce qui ne va pas de soi, parce que la philosophie avait mis de côté l'art. On se souvient que Platon, qui inaugure la philosophie, chasse de la cité idéale le poète. Et la philosophie, c'est penser comme du côté de la raison, laissant de côté l'art comme lui étant inférieur. Et chez Nietzsche, il y a un renversement très profond, que l'art dit quelque chose de très profond de la vie et nous libère. Au fond, Nietzsche, on pourrait dire, est anti-philosophe. Il y a quelque chose où critique de la philosophie. Il voit la philosophie comme nous égarant dans des abstractions qui nous font perdre de vue l'ampleur de la vie. Et la musique, l'art en général, mais la musique tout particulièrement, c'est cette manière de pouvoir être avec ce qui est, avec la vie dans son foisonnement. Donc je crois que c'est ces deux éléments qui sont absolument centrales.
Je cite le philosophe Clément Rosset dans son bel ouvrage La Force Majeure. La musique est le moment de la plus intense jubilation vitale, jouissance comparable et supérieure à toute jouissance physique et psychique, notamment sexuelle.
Ça, je le laisse dire une chose pareille. Mais on pourrait dire à l'inverse, si on entend la jouissance sexuelle comme une manière musicale d'être, alors là, je dirais, je suis d'accord.
Et également, sans la musique, la vie serait une erreur. C'est une
phrase forte de Nietzsche.
Oui. Michel Echaninoff.
Oui, en fait, toute la difficulté, à mon avis, une fois qu'on fait l'apologie de la vie, etc., c'est de savoir mais comment ça marche, comment on fait quand on est un peu déprimé, quand on manque de volonté, pour retrouver cette force. Et c'est vrai que là, par la musique et par l'art en général, Nietzsche nous donne quand même un fil, enfin un moyen qui est être créateur et trouver les choses belles. C'est-à-dire cesser de se pencher sur ses problèmes, essayer de s'ouvrir. Il y a vraiment chez Nietzsche l'idée qu'il faut s'ouvrir au monde, il faut pas regarder vers soi, mais vers le monde, et qu'il faut essayer d'avoir un regard esthétique sur le monde, ce qui signifie pas être un esthète, ce qui signifie avoir essayé de gagner la capacité à trouver les choses belles, trouver cette jouissance justement qui est pas seulement une jouissance égoïste, intime, qui est une jouissance d'explosion, parce que c'est la beauté du monde. Et je pense que Nietzsche, là, nous donne peut-être un petit conseil pour essayer de retrouver cette vie vitale qui nous manque.
Juste pour reprendre ce que disait Michel, c'est le désir et la curiosité, y compris celui de sa propre douleur, de ses propres craintes, avec ce qui nous arrive.
Avec une nouvelle manière de donner droit au corps, qui est complètement nouvelle, et qui est encore aujourd'hui très novatrice, parce que on a l'impression qu'on a un rapport au corps aujourd'hui si on court et si on utilise son corps. Mais c'est pas ça dont parle, c'est une présence entière au corps comme espace de résonance que nous invite à redécouvrir Nietzsche.
Réagissez, intervenez sur franceinter.fr à la page Ça va pas la tête ou sur Twitter, hashtag Ça va pas la tête.
Je faisais être un garçon, sonner dans mon blouson, plaquer mes cheveux en arrière, me la jouer solitaire, à l'aise dans mes baskets, je promène mon corps d'athlète, marcher les jambes écartées, en prenant l'air dégagé. Ne plus laver mon blue jean, et faire des sourires aux filles qui passent sur mon chemin, sans que ça n'engage à rien. Un peu sale, je veux traîner dans les bars, je veux traîner dans la rue, sans qu'on regarde mon cul. Je veux être un garçon beau comme un Apollon, ou bien laid comme un pou, en vérité je m'en fous. Je veux être un garçon, je veux être un garçon, je veux être un garçon. Je veux être un garçon. Je veux être un costaud. Casser des cœurs au marteau. Dévaliser des poitrines. Sans l'air mort en sourdine. Je veux être un sale type. Qui met des boots et des slips. Qui derrière ses lunettes noires. Harponne les filles pour un soir. Je veux changer de peau. Me battre sur les trottoirs. Me battre dans les cafés. Me battre toute la journée. Je veux montrer mes biceps et puis cracher par terre. J'apprendrai la technique pour rouler des mécaniques. Je ne veux plus être une fille, une nana, une brindille. J'échange pour de bon. Je veux être un garçon. Je veux être un garçon beau comme un Apollon, ou bien laid comme un pou. En vérité je m'en fous, je veux être un garçon. Je veux être un garçon.
Zaza Fournier, garçon.
Ça va pas la tête?
La seule façon d'arriver à surmonter cette phobie, c'est d'éconner.
Ali Rebéi, ça va pas la tête? Sur France Inter.
9h52 et on s'intéresse encore quelques minutes à la philosophie de vie de Nietzsche, en partenariat avec le hors-série de Philosophie Magazine consacré aux philosophes allemands.
Je dois y aller.
Attendez, attendez! Dites-moi pourquoi vous faites ça?
Pourquoi tu le fais, toi?
Le fric! Pourquoi d'autre?
Ben voilà.
Non. Arrêtez. Déconnez pas. Un type aussi droit que vous, honnête, avec un méga balai dans le cul, et tout d'un coup, à quoi, 60 ans, vous partez en vrille?
J'en ai que 50.
C'est bizarre. C'est trop strange. Ça fait sautage de plomb. Écoutez, si vous buguez de la tête, ou je sais pas, je veux dire, si vous êtes genre cinglé, ou dépressif, ce que moi je veux dire, c'est que je préférerais être prévenu. Ok? Je prends des risques si vous êtes banque.
Je me suis réveillé. Achète le camping-car. On commence demain.
À l'extrait de Breaking Bad, la série américaine créée en 2008 par Vince Gilligan. Thibaut de Saint-Maurice, pourquoi Walter White, le héros culte de cette série, est-il nietzschéen? Peut-être sans le savoir.
Alors d'abord parce que cette série raconte l'histoire donc de Walter White qui est un prof de chimie et qui dans le premier épisode apprend qu'il est atteint d'un cancer et qui donc il est condamné et que toute sa petite vie, parce qu'il a une petite vie moyenne dans le banlieue de Albuquerque, eh bien va s'arrêter. Et c'est l'extrait qu'on vient d'entendre, ça va être le point de départ de son réveil. Il se réveille et au prétexte au début de devoir trouver de l'argent pour payer son traitement, puisqu'il est prof de chimie, il va cuisiner des méthamphétamines et en fait donner naissance à un immense trafic de drogue et devenir le plus grand caïd du sud des États-Unis. Et voilà, pourquoi est-ce que Walter White incarne quelque chose de la puissance nietzschéenne? Parce que c'est précisément au moment où il découvre qu'il est malade, donc que son corps, en un sens, pourrait lui faire défaut, qu'il va trouver les ressources de quelque chose comme de la grande santé dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que tout en étant malade, on peut dépasser sa propre vie et retrouver quelque chose comme de la puissance de vivre.
Sven Ortoli?
Ça me fait penser à une autre série qui est True Detective. Enfin, plutôt, avec Nietzsche, le problème, c'est qu'on peut penser à peu près à n'importe quelle série, mais je trouve qu'on retrouve dans True Detective, qui est une série qui parle c'est une enquête menée par deux, dans la première époque, en tout cas, c'est une enquête menée par deux détectives en Louisiane, qu'on retrouve une atmosphère. Les personnages ont par ailleurs quelques dialogues nietzschéens ou pseudo-nietzschéens, ça dépend ce disent les critiques, mais sur le fond, c'est un monde un petit peu en décomposition, c'est un monde dans lequel le bien et le mal se confondent, c'est un monde dans lequel la vérité est en permanence sujette à caution et remise en cause. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est, dans les séries, on trouve un espèce de thermomètre de la pensée de Nietzsche, quoi.
Il n'y a rien qui puisse résister à l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre, et comme Alexandre, je voudrais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses.
Michel Piccoli dans Le Don Juan de Marcel Bouval en 1965. En préparant cette émission, Thibaut de Saint-Maurice, vous m'avez parlé de Don Juan comme un héros nietzschéen.
Oui, alors Don Juan est beaucoup, beaucoup de choses, mais Don Juan est aussi, en un sens, dans cette perspective nietzschéenne. Alors pour une raison simple, et là encore je le soumets à la sagacité de mes collègues philosophes ici présents, mais parce que Don Juan déteste par-dessus tout l'idée de s'attacher. Alors de s'attacher à une jeune femme ou de s'attacher dans un statut de mari, d'époux, voilà. Et alors bien sûr, il y a du libertinage, de la séduction, etc., etc. Mais métaphysiquement, on pourrait dire, Don Juan, c'est celui qui refuse la fixité, l'attachement, et qui trouve plaisir justement à suivre le fil de la vie qui le mène de rencontre en rencontre.
Michel Essaninoff.
Oui, c'est vrai que Don Juan, je trouvais nietzschéen aussi en deux choses très importantes. D'abord, il brave la société, il s'en fiche,
oui,
il suit
valeurs,
son propre
valeurs,
désir, les valeurs un peu répressives de son époque, il s'en fiche. Et deuxième chose, il offre de l'exaltation aux femmes qu'il rencontre. Il offre des moments d'enthousiasme partagé. Avant d'être abandonné, ces femmes vivent avec lui des moments de création réciproque et partagée extraordinaire. En cela, il est nietzschéen, effectivement.
Allez, un peu d'exaltation avec Good Morning.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you.
Good morning.
Good morning.
It's great to stay up late.
Good morning.
Good morning to you.
Good Morning, dont chantons sous la pluie, véritable hymne à la joie. Merci à tous d'être venus dans Ça va pas la tête. Sven Ortoli, rédacteur en chef du hors-série consacré à Nietzsche, actuellement au kiosque. En deux mots, on y trouve quoi dans ce hors-série ?
On y trouve les principales idées de Nietzsche, et on y trouve surtout un hymne à Nietzsche, c'est-à-dire, enfin à mon sens, c'est ce que on y trouve du désir, on y trouve le plaisir de lire Nietzsche.
Avec notamment un très bel entretien du philosophe Raphaël Antoven.
Oui, c'est un entretien qui parle entre autres d'une des grandes métaphores de Nietzsche, celle le chameau, le lion et l'enfant. Et Raphaël Antoven explique très bien que l'enfance n'est pas un point de départ pour Nietzsche. L'enfance c'est une permanence, c'est l'état permanent dans lequel on doit être vis-à-vis du monde et vis-à-vis de la vie, puisque c'était le thème de l'émission.
L'enfance, selon Raphaël Antoven, c'est l'aptitude acquise à vivre chaque instant comme s'il était le premier. Enfin, selon Antoven et Nietzsche, bien évidemment.
Et Rosset, probablement.
Merci beaucoup, Fabrice Midal, d'être venu. Comment la philosophie peut nous sauver, sorti chez Flammarion il y a quelques mois. Merci, Thibaut de Saint-Maurice. Philosophie en série est toujours disponible en librairie. Et merci également à Michel Etchaninoff d'être passé dans le studio. Vous pouvez retrouver toutes les références citées sur franceinter.fr, à la page Ça va pas la tête. À la technique ce matin, il y avait Sandrine Laurent. Dans un instant, vous retrouvez les routes de la musique de notre André Manoukian. Bonjour André Chamanoukian, notre chaman.
Bonjour Ali.
Alors, vous êtes forcément nietzschéen, vous André, vous qui célébrez la musique avec joie chaque matin.
Bah, hein, bien sûr, comment peut-on vivre dans un monde sans musique, disait-il.
Alors, quoi de neuf tout à l'heure ?
Tout à l'heure, ça va être Cacher Nostra, comment les Noirs et les Juifs, sponsorisés par les gangsters italiens, vont écrire les plus jolies pages de la musique américaine.
Ah bah, je vais écouter André Manoukian tout à l'heure.